Le 13 février 1994 à Rimont, session de philosophie sur la personne humaine par le père Marie-Dominique Philippe, 11e conférence et fin de la session.
Comprenez bien que ce que nous avons essayé ce matin de montrer, la recherche de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, puis la relation entre l'être premier et Dieu, je suis, et notre je suis. Cette relation que les traditions religieuses appellent création. Le mot création est encore un mot qui provient des traditions religieuses. Le philosophe, lui, dirait quel est le type de relation qui existe entre l'être premier, le premier je suis, et l'autre je suis. Et c'est sous cet aspect de la relation de priorité et d'être second qu'il essaierait de voir progressivement que signifie cette relation de dépendance à l'égard de l'être premier. Et ensuite il verrait c'est ce que les traditions religieuses appellent création. C'est vrai, c'est un acte de don de l'être, où c'est vraiment un don absolu dans l'ordre de l'amour. Ce n'est pas un travail, Dieu ne travaille pas. Et parce que la création, c'est à partir de rien. Et le travail, c'est toujours la transformation d'une matière. Alors quand il n'y a rien, pas de matière à transformer, il y a un don. Dieu nous donne notre âme, notre substance, et nous la donne avec la coopération de nos parents. Alors, j'avais souligné une question. J'y reviens un instant. Dans la lumière de notre réponse à l'acte créateur de Dieu, à ce don absolu, notre réponse qui est une réponse où nous adorons, où nous reconnaissons que nous recevons l'être de Dieu, la vie de Dieu, notre vie. Nous l'avons reçue de Dieu. Notre vie humaine vient de Dieu directement. Elle a donc quelque chose de sacré, vous voyez. Et notre corps est animé de cette vie. Notre corps est assumé par notre âme. Nous actionnons, on enlève des organes. L'âme, on ne l'enlève pas. Et c'est l'âme qui donne aux organes leur signification humaine. Il ne faut pas l'oublier, du reste, pour la résurrection, c'est comme ça. Parce que le corps, si vous chargez toutes les miettes, toutes les poussières, c'est pas très commode. Il n'y a que Dieu qui a un appareil électrique suffisamment fort pour rassembler toutes les... avec un numéro... chiffre biologique de toutes les poussières, n'est-ce pas? si on pouvait dire ça, hein. Quand on est dans l'état de crise, la crise de l'humanité aujourd'hui, hein. C'est vraiment ça, c'est un état de crise. La crise de l'humanité aujourd'hui, elle est fameuse. Les savants ont peur. Je connais un grand médecin qui enseigne à Paris la faculté de médecine. Il m'a dit que tous les grands savants ont peur. En disant, on découvre des choses telles par rapport à la médecine, par rapport à la chirurgie, par rapport aux transformations génétiques, des choses tellement qui vont tellement loin qu'on ne sait pas ce que sera l'humanité de demain. Et c'est vrai, et il me disait, parce que je le connais bien. On a un petit exemple, c'est touchant du reste, parce que c'est un des meilleurs professeurs à la faculté de médecine de Paris. Il a étudié surtout l'aspect génétique de l'homme, c'est ça qui l'intéresse avant tout. Alors on l'avait invité pour parler des mutations génétiques. Jusqu'où on peut aller. Et c'est vrai, c'est une des questions que se posent les médecins qui voient leur responsabilité. Jusqu'où peut-on aller quand on découvre des malformations dans le sein maternel? Jusqu'où peut-on aller? Lors des savants, des polytechniciens à Paris l'avaient invité. Il avait dit, je veux bien, à une condition, c'est que j'ai à côté de moi un philosophe. Et je demande que le père Philippe soit là. Pour que si je dis quelque chose qui est contraire à ce que le philosophe dit, on puisse tout de suite rectifier. Et c'était très beau, parce que ça montre que ceux qui réfléchissent le plus au point de vue science aujourd'hui, voit qu'on touche des problèmes qui appellent la métaphysique, qui appellent quelque chose de radical, un autre regard. Et il me disait, au moment où on avait découvert la pilule, parce que j'avais demandé de me dire, lui, en tant que savant, ce que ça représentait comme découverte, cette découverte d'un chinois. Et il m'avait dit, il faudrait que l'humanité ait arrivé à un niveau de sagesse pour que l'homme puisse utiliser la pilule d'une façon humaine. Et on posait toujours leur angoisse en disant on découvre des choses telles qu'on livre ça aux hommes. Et c'est les propagandes qui livrent ça aux hommes. Sans comprendre que ça devient extrêmement dangereux. Parce que l'usage de ces choses-là, les gens ne voient pas. Et ces gens, je crois, cela qui est caractéristique de notre monde d'aujourd'hui. Et la crise en profondeur, elle est là. Mais on dirait que le progrès de la science et de la technique va plus loin. Plus loin et plus rapide qu'un regard de sagesse. Le regard de sagesse, c'est comprendre la destinée de l'homme, ce pourquoi l'homme est fait. Et alors à ce moment-là, le progrès de la science et de la technique risque de devenir un obstacle à un regard de sagesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce point de vue de l'adoration devient urgent. Si on comprend ce que représente ce retour à la source dans l'adoration, il y a un nouveau regard sur toute notre personne, sur l'être de notre personne. Et on le voit dans la lumière de l'acte créateur. finalité. Parce qu'on se dit, mais pourquoi la philosophie? Mais si je peux arriver à faire un acte d'adoration dans une lucidité normale, l'homme devrait comprendre que ça le caractérise d'adorer Dieu. Et que c'est peut-être son devoir le plus essentiel, après tout. Si tu existes, le devoir le plus essentiel, c'est d'être poli à son égard. Je crois. C'est de pas passer devant. On comprend que il y a là quelque chose d'extrêmement important pour nous. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que personne n'en parle. On n'adore plus aujourd'hui. On se dit, mais non, c'est l'amour. Oui, mais si il n'y a pas adoration, l'amour se corrompt. Vous voyez, c'est comme dans l'amour d'amitié. Quand il n'y a pas le respect à l'égard de l'ami, très vite, l'amour d'amitié se corrompt. Le respect est garanti de l'authentique amour. Le respect à l'égard de la personne, à l'égard de l'autre comme autre, tandis qu'autrement on cherche à dominer. Bien, il y a quelque chose de semblable, analogiquement semblable. Vous voyez, par rapport à l'adoration et le regard d'amour vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis du Créateur. L'adoration, c'est l'acte de respect dans l'amour à l'égard de Dieu, du Dieu Créateur. Donc il y a là un acte auquel il faut tout le temps revenir. Je crois que tout homme devrait adorer, faire des actes d'adoration, au moins le matin et le soir. Ça transforme notre vie. Saint abbé qui est mort maintenant, Don Bélanger, qui était un charismatique avant la lettre, avant que les autres existent, et qui était un charismatique étonnant. Vous racontez cette petite histoire, ça vaut la peine. Il était vétérinaire dans l'armée. Ça préparait très bien. Et il avait perdu la foi. Dans ses études de médecine, comme beaucoup. Et un beau jour, il rencontre un petit moine de Cîteaux dans le train. Puis il bavarde. Et ce moine de Cîteaux s'aperçoit vite qu'il a affaire à quelqu'un qui est vétérinaire dans l'armée. Vous adorez, oui. Puis il l'invite. Puis vous pouvez parler au père là-bas. Il y a des pères qui peuvent vous intéresser. Alors il vient. Puis il revient une autre fois. Puis petit ami, vice-converti. Vice-converti tellement bien qu'il demande d'entrer. C'est toujours dangereux les abbayes, hein, ça attire. Sont des sources d'eau pure. Alors il entre. Et au bout de quelques temps, fait profession solennelle. Et le soir de la profession solennelle, il m'a dit, c'est lui qui m'a raconté ça. Mais les écailles de mes yeux sont tombées. Et puis j'ai vu que ces moines, c'était pas des contemplatifs, c'était d'excellents travailleurs. C'est vrai, les trappistes sont des excellents travailleurs. Il travaille gratuitement pour le Seigneur, donc c'est très très bien fait. Mais il se fatigue. Alors le soir, le fils est résité, très fatigué. Il se couche très tôt, il dort mal, et il se lève très tôt. avez trompé. Ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une communauté de contemplatifs, ce sont des travailleurs, et d'excellents travailleurs. Alors là, oui. Et l'Esprit Saint lui a dit, tais-toi, sois-toi contemplatif. C'était un bien beau jour, on l'a élu abbé. Alors le soir où était élu abbé, il a dit au Saint-Esprit, maintenant je suis responsable. Je veux transformer cette abbaye de travailleurs en abbaye contemplative. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, vois chacun des moines, et je crois que c'est vrai parce que c'était quelqu'un de merveilleux, vois chacun des moines et dis-leur de faire 7 actes d'adoration par jour. Alors, il m'a dit, j'ai dit, mais il y a l'office. Oui, mais l'office, ils y vont quand la cloche sonne, comme des moutons. Qu'ils fassent 7 actes libres d'adoration par jour. Ça leur donnera une très grande volonté, puisque notre volonté devient forte quand on fait des actes libres. C'est facile de leur dire ça, tout de suite en se levant, le soir avant de se coucher, à un midi, puis deux. Alors comme ça, 7 actes d'adoration, libres, en plus de l'office, en dehors, et durant le travail, quand il le faut. Eh bien, il m'a dit, j'ai dit ça à chacun des moines, parce que l'Esprit a dit, si tu dis ça, au chapitre, chacun dira que c'est pour le voisin. Il faut leur dire à chacun en particulier, vous êtes Saint-Esprit, regarde chacun en particulier. Hein. Et m'a dit, au bout de 6 mois, ma trappe était complètement changée. Tous revenaient à la vie contemplative. L'appel le plus fort à la vie contemplative, c'est l'adoration. C'est pas du tout la méditation, c'est l'adoration. Ça, c'est un appel d'air qui va jusqu'à au néant. 7 actes d'adoration. Et quand je prêchais régulièrement aux prêtres à Châteauneuf, dans le temps du temple de Marthe Robin, je disais toujours ça aux prêtres, parce que normalement, ils devraient tous être des contemplatifs. Et vous savez, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de prêcher des retraités des prêtres, parce qu'ils savent tout. La seule chose qu'ils savent pas, c'est l'adoration. Alors là, moi, j'avais un terrain particulier de leur dire 7 actes d'adoration par jour. Puis après, on verra. Et c'est vrai, si on fait 7 actes d'adoration par jour, il y a un appel à la contemplation. Et on peut tous le faire. Hein. C'est le bréviaire des pauvres, ça. C'est le bréviaire de ceux qui sont dans le monde. 7 actes d'adoration. Mais en comprenant que l'adoration, c'est se mettre en présence de l'acte créateur de Dieu au plus intime de moi-même, qui crée mon âme. Et essayer de réfléchir à cette présence du créateur en moi. Ça, c'est merveilleux alors. Et c'est vrai que ça transforme notre vie. Vous voyez, c'est comme la respiration spirituelle de notre âme. Notre âme devient religieuse quand elle respire en faisant des actes d'adoration. On est en présence du Créateur. Et on reconnaît qu'on est en totale dépendance de lui. Alors retenez ça, hein. C'est le sommet de ces jours. Et ceci, on peut le dire à tout le monde. Faut dire, vous dites ça qu'à des croyants. Non. Tout homme devrait comprendre ça. Tout homme bien né devrait comprendre ça. Ceci, c'est vrai pour tous les hommes. Puisque c'est leur intelligence qui s'éveille au contact de l'être. Et l'être que je constate dans le jugement d'existence, il est la signature du Créateur. Et donc très vite, je comprends le si j'essaie, dans la lumière de l'acte de création, d'adoration, de comprendre pourquoi Dieu a uni l'esprit et la matière, le corps, je découvre dans la lumière de l'acte d'adoration. C'est pour que Dieu communique à l'être humain la capacité d'être source de vie. Si Dieu crée de purs esprits, le philosophe a le droit de se poser l'hypothèse. Les philosophes se sont posés ces hypothèses. Et beaucoup de philosophes ont dit que Dieu avait créé des esprits purs. Ces esprits purs ne peuvent pas être source de vie. Les anges ne sont pas source de vie. Et pour pouvoir s'aimer d'un amour d'amitié, il n'y a pas d'amour d'amitié naturel, comprenez bien ce que je veux dire, chez les anges. Il n'y a qu'un amour surnaturel. À cause de l'union de l'esprit et du corps, nous sommes chefs-d'œuvre de Dieu parce que nous pouvons coopérer à la création et que nous sommes capables de nous aimer d'un amour d'amitié. Et dans la lumière même de l'adoration, je comprends que seule une consécration à Dieu peut dispenser l'homme de la grandeur d'être source de vie pour un autre. Il n'y a que la contemplation dans l'adoration où je me consacre à Dieu qui peut me faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que la procréation. C'est ce don de tout moi-même à Dieu. À ce moment-là, je comprends toute la finalité profonde de mon être. Je voudrais, à Fribourg, la dernière leçon était toujours une leçon courte. Parce que les étudiants étaient pressés de partir le plus vite possible. Alors on faisait lectio brevis. Alors, vous gardez les bonnes habitudes. Alors, comprenez bien, pour le philosophe, attentif aux traditions religieuses. Un vrai philosophe doit être attentif aux traditions religieuses. Puisque ça fait partie du patrimoine humain. Donc un vrai philosophe doit voir que parmi les traditions religieuses, il y en a une particulièrement importante, la tradition judéo-chrétienne, au moins pour l'Occident. Pour l'Orient, la tradition judéo-chrétienne n'a pas été très répandue. Tandis que pour l'Europe, c'est très net. Et les États-Unis. Donc, tout l'Occident. Or, la tradition judéo-chrétienne me met en présence d'un livre étonnant, la Bible, et d'une personne unique, Jésus. De sorte que le devoir du philosophe, c'est de regarder l'éthique nouvelle chrétienne. Je n'ai pas le droit de dire je n'ai pas la foi, donc ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui regarde l'homme intéresse le philosophe. Ça, je crois qu'il faut affirmer ça avec beaucoup de force. philosophie, je m'intéresse à Socrate. Et j'essaie de comprendre ce qui est Socrate. Au point de vue philosophique, je m'intéresse à Épicure. Et j'essaie de comprendre ce qu'il est. Au point de vue philosophique, je m'intéresse à toutes les idéologies athées. Et je les travaille. Et donc le philosophe doit essayer de comprendre qui est la personne de Jésus. Qui est ce Jésus de Nazareth. Et selon ses disciples, que représente sa doctrine, que représente son éthique, sa morale. Donc je peux, au plan philosophique, c'est même très intéressant de voir ce qui caractérise l'éthique des disciples du Christ, des disciples de Jésus. Et je me pose la question, est-ce que dans la lumière de l'éthique chrétienne, que devient l'être de la personne du chrétien? Vous voyez la question? Et je crois que c'est très important. Dans notre monde d'aujourd'hui, on a horreur des apologétiques. Je comprends. L'apologétique du début du siècle est insortable. Tandis que, dans le monde aujourd'hui, on s'intéresse. Et quelqu'un comme Bergson n'a pas hésité de le faire. On s'intéresse à la figure du Christ, à la figure de Jésus. Alors je me pose la question, vous voyez. Nous n'allons pas le faire. La question. Le philosophe doit se poser la question. Quel est l'être de la personne disciple du Christ? Est-ce que le christianisme transforme ma personne? Vu du côté philosophique, ce n'est pas l'adhésion de foi, c'est simplement regarder cela. J'ai tout à fait le devoir et, j'allais dire, c'est un grand intérêt. Il ne faut jamais oublier ça. J'ai un ami que je connais qui est grand spécialiste de la méditation du Zen. Et quand il a su qu'il y avait ici un couvent et que je m'en occupais un peu, il m'a dit, si vous voulez, je pourrais venir leur faire des... je suis du chrétien échangé. Mais je pose quelques petites questions. Un bon petit examen. Si vous êtes chrétien, si vous avez été baptisé, si vous êtes disciple du Christ, si vous dites oui, je suis chrétien, je suis chrétienne, est-ce que votre je suis est changé? Nous avons vu, que reconnaître l'existence d'un être premier, qu'on appelle Dieu selon les traditions religieuses, et qui est mon créateur, fait que mon je est changé dans la lumière de l'adoration. C'est sûr. Est-ce que, dans la lumière de la foi, vous pouvez continuer à dire je suis? Est-ce que le petit enfant qui reçoit le baptême est changé dans son être? Quand vous dites je suis chrétienne, je suis du Christ, est-ce que votre je est le même? Vous n'êtes jamais posé la question. Pourtant important et intéressant. Est-ce que l'être de votre personne est modifié par le don de la grâce? Ça revient à ça. Est-ce que votre grâce est substantielle en vous? Et je pousse jusqu'au bout. Eh bien non. Les grands scolastiques s'étaient posé la question. C'est pas si bête, tu vois. Est-ce qu'on peut penser une grâce substantielle? Ils disent non, ce serait Dieu. Ma grâce est reçue dans ma nature et dans ma personne. C'est la personne qui est baptisée. Si tu es capable, qu'est-ce qui est capable d'être baptisé? C'est la personne humaine. Et c'est l'âme qui reçoit la grâce. L'âme humaine, l'âme spirituelle. Et donc, le je suis du chrétien. Mon je suis comme chrétien ne modifie pas substantiellement mon je suis de philosophe. Ah, vous voyez, c'est intéressant parce que tout ce que je vous ai dit, hein, que vous soyez chrétien ou bouddhiste, il y en a peut-être parmi vous, on n'a pas fait de vérification. Vous êtes chrétien, chrétienne ou bouddhiste, peu importe. Ce que je vous ai dit, c'est la philosophie de l'homme. Eh bien, cette philosophie de l'homme demeure vraie pour le chrétien ou pour le non-chrétien. La philosophie n'est pas confessionnelle, elle est humaine. Très important de se rappeler ça. Et c'est très vrai. C'est pas parce que je suis baptisé que je suis plus intelligent. Il y a des gens très intelligents qui demandent le baptême. Il y a des gens beaucoup moins intelligents, pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas, qui demandent le baptême. Et qui sont baptisés. Et qui demeurent après le baptême ce qu'ils étaient avant, au point de vue de leur intelligence. C'était très fort en mathématiques, ils demeurent forts en mathématiques. Le baptême ne les dérange pas beaucoup, au point de vue mathématique. Comme c'est intéressant de voir que le je suis du chrétien n'est pas modifié radicalement. Il y a une modalité nouvelle, il y a une qualité nouvelle, il y a la grâce. La grâce est quelque chose d'extraordinaire. Mais mon je suis personnel n'est pas substantiellement changé par la grâce. C'est en ce sens-là, vous voyez, qu'il ne peut pas lire mon intelligence. L'espérance et la charité vont ennoblir ma volonté et me permettre d'aller plus loin. Alors, c'est intéressant de voir que si le « je suis » n'est pas changé substantiellement, il y a cependant une vraie personne chrétienne, mais qui maintient le même « je suis » que quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si tu restes grâce à cela, qu'on peut parler à un non-chrétien et parler jusqu'au bout, et que le philosophe peut regarder dans sa lumière à lui, qu'est-ce que Jésus apporte de nouveau à mon je suis. Alors, ce serait très intéressant à regarder. c'est un art nouveau, l'art chrétien, parce que Dieu s'est incarné. Si Dieu ne s'était pas incarné, il n'y aurait pas d'art chrétien. Et l'incarnation me permet de découvrir qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'incarnation du Christ et dans le mystère de la Vierge, qui est la créature la plus parfaite qui soit. Enfin, j'ai un regard tout à fait nouveau sur la mort, puisque la mort n'est plus un absolu, elle est dépassée. Or, comme la mort est le grand conditionnement de toute ma vie, je peux saisir comment ce conditionnement qui m'est donné par le corps peut être complètement transformé. Le corps humain peut devenir ce qui est offert à Dieu, l'état victimal du corps du Christ. Vous voyez comment, si je veux regarder les différents niveaux de l'être de la personne humaine, je distingue la personne humaine, l'être de la personne humaine, dans son état fondamental, dans la découverte de l'essence de Dieu par l'adoration. Et enfin, le mystère du Christ ne change rien à cette structure de la personne humaine, mais donne un nouvel élan, une nouvelle finalité qui, elle, transforme tout. Avoir la certitude que je suis fait pour voir Dieu fait que cette recherche de la vérité devient pour moi primordiale. J'illustre ça par un petit passage de l'évangile de Saint Jean que j'aime beaucoup. Quand vous regardez l'évangile de Saint Jean, c'est bien terminé par l'évangile de Jean. Ça fait partie des traditions religieuses et le philosophe s'intéresse à l'évangile de Jean parce que c'est la partie la plus spirituelle et la plus profonde de toute la révélation. L'évangile de Jean me montre les grandes rencontres de Jésus avec les hommes. Et chaque fois, Jésus s'adapte merveilleusement, divinement. Jésus avec Nicodème donne une leçon de théologie. Jésus avec la Samaritaine se met à l'écoute de cette femme pour l'ouverture du cœur. Et la Samaritaine reconnaît qu'elle a eu 5 maris. C'est pas un secret, c'est un faux secret, puisque c'est son malheur. Jésus en face de Pilate. Pilate n'a pas la foi. Pilate est un Romain. Pilate est un gouverneur au nom de César. Pilate a eu une formation philosophique stoïcienne, celle qui existait à Rome à ce moment-là. Jésus, en face de Pilate, parle philosophe. Parce que ça m'intéressait beaucoup de chercher un lieu dans l'Écriture où Jésus parle en philosophe. C'est quand même intéressant. Alors quand vous regardez ce passage dans l'évangile de Saint Jean, à la fin, Jésus qui parle à Pilate, un homme qui a fait de la philosophie stoïcienne à Rome. Rome, à ce moment-là, c'était la philosophie stoïcienne qu'on enseignait. Et c'était Épictète. Un peu plus tard, mais presque à cette époque-là. 10 ans près. Épictète. L'esclave devenu philosophe. Et Jésus parle avec autorité à Pilate. Et il dit, je suis venu pour être témoin de la vérité. Vous voyez que c'est un langage philosophique, ça. Et Pilate, à ce moment-là, a dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors, on dit que c'est avec ironie, Pilate, pour ça, pas du tout. Pilate était merveilleux. Les stoïciens cherchaient la vérité. Et pour les stoïciens, la vérité, pour Épictète, la vérité, c'était de conformer sa vie à la volonté de Zeus. Zeus étant le dieu des dieux, le roi des rois. Conformer sa vie à la volonté de Zeus. Ça, c'était la vérité pratique. Et c'était la vérité tout court. Et voilà que Pilate, subitement, se trouve devant un homme qu'il juge innocent. Il le dit par 3 fois. Un homme tout proche de la mort, qui n'a pas peur de la mort. Et ça le frappe. Un homme qui n'hésite pas de lui poser une interrogation et de le corriger. Quand Pilate dit à Jésus, tu es le roi des Juifs, Jésus dit, dis-tu ça de toi-même ou un autre te l'a dit? Jésus corrige Pilate. Il faut avoir suffisamment d'autorité pour corriger Pilate. Et il le fait en philosophe. Pilate n'a pas le droit de dire cette parole comme il le dit. Il doit dire, on m'a dit, les grands prêtres m'ont dit que tu disais que tu étais roi des Juifs. Dis-tu ça de toi-même? Pilate n'a pas fait l'enquête. Ou un autre te l'a dit. Celui qui a autorité ne peut pas porter un jugement sur un homme sans avoir fait l'enquête ou tout simplement de dire quelles sont ses références. C'est une netteté. Et c'est bien ça la parole d'un sage. Et quand Jésus dit qu'il est témoin de la vérité, c'est bien la parole d'un sage. Face à Pilate, qui a toute autorité, et Pilate le revendique. J'ai toute autorité. Je peux très bien te sauver. Et Jésus lui montre que c'est faux. C'est pas lui qui a toute autorité. Vous voyez, c'est très beau ce passage. Ça montre bien que la philosophie n'est pas étrangère à la foi. Si la philosophie était étrangère à la foi, Jésus n'aurait jamais pris ce langage avec Pilate. Il aurait pris le langage des Juifs. Et il ne prend pas le langage des Juifs. Il prend le langage d'un philosophe. Ceci pour bien vous faire comprendre que cette recherche de la vérité qui doit aller jusqu'au bout, elle est nécessaire à notre vie humaine plus que jamais. C'est par là que nous respirons. Des exercices de respiration pour vivre et surtout pour garder sa liberté. Dans la mesure où on découvre la vérité, immédiatement,